Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission spéciale dans laquelle je vous convie aujourd'hui pour aller visiter l'abbaye de Saint-Savin en compagnie de Jean-Luc Dorchy, qui est le directeur de cet établissement, de l'EPCC, l'établissement public, qui gère donc l'abbaye de Saint-Savin et la vallée des fresques. Aujourd'hui, donc, découverte de ce lieu, nous essaierons dans les semaines et les mois à venir de continuer la balade à travers le triangle d'or historique de la Vienne, à savoir Chevigny, Angles-sur-Anglin, Saint-Savin. Chevigny, c'est la cité médiévale, bien évidemment. Angles-sur-Anglin, avec le roc aux sorciers et la forteresse. Saint-Savin, l'abbaye, ce joyau de l'architecture romane. Une balade qui nous emmènera aussi du côté de l'Appuy, peut-être, tiens, du côté de la congrégation des Filles de la Croix, avec son prieuré du XIIe siècle, du côté de la Bussière, du côté de Saint-Pierre de Maillet, puis d'autres encore, hein, du côté de l'Allier, par exemple, hein, qui a accueilli un temps les Rossignols, hein, ces deux instituteurs, hein, qui étaient là donc pour créer des cartes pour l'éducation des enfants. Beaucoup, beaucoup de choses à voir, hein, donc au niveau de ce triangle d'or historique qui tente à se développer actuellement, sous l'impulsion du département de la Vienne. Jean-Luc Dorchy, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Je rappelle que vous êtes directeur de l'EPCC, hein, l'établissement public qui gère l'abbaye de Saint-Savin.
Tout à fait, donc l'établissement public qui est chargé de valoriser l'abbaye, de la faire visiter, de la faire connaître au public au travers de toutes nos offres de visite et de bien d'autres manifestations.
Faire connaître ce chef-d'œuvre, ce joyau de l'art roman, que peut-on en dire de l'extérieur ?
Donc nous sommes ici sur l'esplanade qui conduit à l'abbaye, donc face à nous, nous avons le bâtiment conventuel, hein, c'est-à-dire l'ancien bâtiment conventuel, reconstruit à la fin du XVIIe siècle, après une histoire extrêmement tumultueuse de l'abbaye médiévale. Et à notre gauche, donc, nous avons bien sûr le joyau qui est l'abbatiale du XIe, donc ce bâtiment millénaire qui abrite notamment, alors qui est tout à fait particulière par son architecture, donc très très haute, très élancée, très sobre à l'extérieur, comme si on voulait nous ménager le plaisir et la surprise des images absolument merveilleuses, des peintures murales merveilleuses qu'on peut voir ensuite sur les murs et dans les voûtes.
Exactement, un site exceptionnel alors, qui se divise en trois parties, on va dire, hein, la partie abbatiale avec bien entendu les fresques, la partie qui est le réfectoire des moines en longueur, et ensuite le restaurant, le Cérasus. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre par le clocher-porche, hein, qui est du XIe siècle, je crois, comme l'ensemble de l'établissement, et puis que l'on regarde rapidement ces fresques et que l'on s'aperçoive rapidement justement de la limite de l'exercice lorsque l'on rentre sans profiter de l'établissement, sans profiter des aménagements qui ont été faits par l'EPCC. Voilà, nous sommes ici à l'intérieur de l'église abbatiale de classée à l'UNESCO, donc de Saint-Savin, avec ces fresques magnifiques et ces colonnes qui sont peintes, hein, du XIe siècle ensemble.
Alors, effectivement, là, on sait que l'argent qui a permis de construire cette extraordinaire église a été légué par une comtesse du Poitou, duchesse d'Aquitaine, en 1010. Et on pense que les travaux ont commencé par le côté est, le chœur, dans les années 1030, jusqu'à une fin des travaux à l'extrême fin du XIe siècle, sachant que les décors peints ont suivi dans la foulée, dans la deuxième moitié du XIe siècle, pour s'achever au tout début du XIIe siècle.
Voilà, et c'est là où je parlais justement de limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'on rentre, on vient visiter l'abbaye gratuitement pour ses fresques, puisqu'on est dans une église paroissiale. Ensuite, le souci, c'est que si vous voulez véritablement aller en profondeur, il faut quand même rentrer par le PCC, par l'entrée avec la billetterie, ce qui nous permet d'accéder justement à différents endroits, notamment à la tribune, de voir les fresques. Elles sont à quelle hauteur, vu du sol ?
Je crois que c'est 17 mètres de haut, donc pour la nef. Très très grande, une quarantaine de mètres de longueur. Bon, j'ai plus la surface exacte de murs et de voûtes recouvertes, mais c'est tout à fait considérable. C'est le plus grand cycle de peinture murale de cette époque, donc du 11e, 12e siècle, tout début 12e siècle, conservé en Europe.
Exactement, donc à découvrir en visite guidée, hein, pour avoir toutes les explications, parce que c'est vrai, quand on est devant ces fresques sans explication, ça limite un peu l'intérêt de l'établissement. Donc visite guidée qui nous permet de monter à la tribune, ce qui nous permet de voir les fresques de beaucoup plus près, et puis d'avoir toute une histoire autour de ce site.
Oui, alors effectivement, je pense que quand on arrive dans Sasama sans avoir un minimum d'explications, on perd beaucoup, parce que toutes ces images sont conçues par les moines, pas réalisées par les moines, elles sont réalisées par des peintres, et ce sont les moines qui définissent les histoires, les scènes, les emplacements. Tout ça est extrêmement symbolique et demande d'être accompagné, d'être expliqué. Donc la visite guidée, effectivement, puisqu'on a la possibilité de visiter avec une tablette, mais également la visite guidée, c'est vraiment la meilleure façon de comprendre et de vivre vraiment une expérience. Nos guides sont très très compétents et effectivement ça permet de monter à un endroit absolument extraordinaire qui est la tribune, et chaque fois qu'on voit les gens arriver là, on a ce qu'on appelle aujourd'hui, mais souvent en numérique, sauf que chez nous c'est en réel, l'effet « waouh ».
Écoutez, je vous propose de nous rendre à l'accueil et puis on continue notre visite tranquillement de l'abbaye de Saint-Savin.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. Mi è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle le dessine après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
È una musa che ci invita.
Elle vivra toujours en moi.
Attraverso un piano forte. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
Je serai perdu sans elle.
Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je l'appelle.
Vivo per lei nel vortice.
Et les musiques et le désert,
Donc nous arrivons à l'accueil, hein, celui qui est réservé au public avec la billetterie, qui ouvre à partir de...
Donc nous sommes actuellement ouverts à partir de 10h jusqu'à 17h, sans interruption entre midi et 2, et ce sera le cas du mois d'avril jusqu'au 31 octobre, et également pendant toutes les vacances scolaires, toutes zones confondues. Donc c'est aussi un effort que nous souhaitons faire, il faut le savoir, on arrive à Saint-Savin à la pause méridienne, et on ne se retrouve pas devant une porte fermée. On a même la possibilité de suivre une nouvelle visite à 12 heures.
Exactement, avec un site internet qui permet d'avoir tous les éléments, que ce soit les tarifs.
Oui, tout à fait. Vous pouvez taper l'abbaye de Saint-Savin et vous trouverez les horaires, les tarifs, etc.
Voilà, donc nous sommes à l'accueil maintenant, hein, pour la billetterie, côté boutique aussi, il faut le rappeler, avec beaucoup de choses à voir. Et puis j'ai la chance d'avoir deux guides ici avec moi qui vont pouvoir se présenter d'abord et puis nous parler un peu du programme.
Bonjour, moi je m'appelle Gaëtan, je suis médiateur à l'abbaye de Saint-Savin. Donc programme, là on vient de faire l'ouverture du site, donc vérifier que tout aille bien, que les portes soient ouvertes, que les ordinateurs fonctionnent, les vidéos. Et puis là on est en train d'installer avec ma collègue Marianne les caisses pour pouvoir accueillir notre public ce matin.
Beaucoup de public, hein, généralement, enfin beaucoup, on espère en avoir beaucoup plus encore, mais une visite c'est combien de temps à peu près, une visite de l'abbaye ?
La visite de l'église abbatiale en visite guidée dure environ une heure. Voilà, on se concentre vraiment sur le patrimoine mondial et les peintures murales. Et le public peut, pendant à peu près une heure complémentaire, découvrir le bâtiment monastique avec la scénographie des cellules des moines, le film à fresco, la nouvelle scénographie mise en place dans le réfectoire et les jardins.
C'est ce qu'on disait avec Jean-Luc tout à l'heure, c'est qu'il était un peu dommage, hein, de passer uniquement par les portes du clocher-porche et de ne pas venir par la billetterie, parce qu'on loue pas mal de choses, hein, énormément de choses à voir dans l'abbaye.
Alors, certaines scènes de l'église sont assez facilement reconnaissables, comme l'Arche de Noé, mais il est vrai que si on n'a pas les clés, il est difficile de comprendre ce qu'on a devant les yeux. Et même si on comprend la plupart des scènes, il y a tout le volet symbolique, liturgique, qui transpire de ces peintures et que les gens ne peuvent pas saisir. Et du coup, ils n'ont pas une idée complète de toute l'importance de ces peintures murales.
La visite commence, la visite guidée ensuite peut commencer. Alors vous me disiez soit avec des tablettes, soit en faisant en tant que visite guidée.
Voilà, donc il y a une option entrée sans aucun accompagnement. Ensuite, il y a une option avec une tablette numérique qui permet de découvrir le site par soi-même. Et puis la visite guidée. Et puis nous travaillons actuellement, donc nous allons remettre en place très bientôt... fin avril, je pense, ou plus tard, des visites avec des jeux destinés aux familles et aux enfants. Donc, deux parcours jeux découvertes en autonomie. Hein, donc, il faut trouver des énigmes, il faut repérer des indices, des rébus, etc. Donc, en se déplaçant dans l'abbaye, dans toute l'abbaye. Donc, l'abbaye devient un terrain de jeu, c'est important aussi. Et puis, également, donc, une visite... avec une médiatrice ou un médiateur qui accompagne des groupes qui doivent s'affronter pour devenir chevalier de Saint-Savin. Et puis, après le 15 mai, nous aurons une nouvelle visite théâtralisée qui est en cours d'élaboration avec cette fois-ci un comédien et un médiateur. Et également, ça c'est une nouveauté aussi, donc on essaie de diversifier l'offre, des visites musicales. Avec une musicienne qui nous fera remonter le temps et racontera l'histoire de l'abbaye en l'illustrant par tout un répertoire musical du 19e siècle jusqu'au 11e siècle, en passant par le 17e, le 13e, etc.
Exactement, donc une visite intéressante, hein, sur plus de 1000 ans d'histoire. On est ici donc, dans le réfectoire des moines qui a été restauré avec beaucoup de choses à voir. L'intérêt de ce réfectoire, justement, c'est...
Alors, l'intérêt du réfectoire, c'est ce qu'on a souhaité faire, c'est évoquer cette histoire très riche et en même temps tumultueuse de l'abbaye. Quand on arrive à Saint-Savin, sur la place, on a effectivement un joyau du Moyen-Âge qui est l'abbatiale. Mais du Moyen-Âge, de l'époque médiévale, de l'époque où l'abbaye était dans tout son rayonnement, c'est-à-dire entre l'an 1000 et la guerre de 100 ans, où on avait un cloître, des bâtiments conventuels médiévaux, une communauté de moines d'environ entre 60 et 80 moines, eh bien, il ne reste plus grand-chose, puisque donc, ces bâtiments conventuels, ces bâtiments donc, des moines de l'époque médiévale ont été détruits, démantelés, littéralement, vendus, les pierres vendues à la fin du XVIe siècle. Et ensuite, donc, a été décidé par le Louis XIII Richelieu, la reconstruction de la partie XVIIe siècle. Et ce réfectoire donc, a été reconstruit à la fin du XVIIe siècle et témoigne de cette histoire mouvementée. Donc on a effectivement proposé des éléments sous forme d'infographie, également de textes lus et mis en scène dans des casques. On raconte cette histoire. On évoque aussi la préservation, la conservation, les restaurations qui ont commencé en 1840. La dernière campagne a eu lieu en 2015. Et on a encore des problématiques qui se posent de conservation, de sauvegarde. On met en avant la figure de Prosper Mérimée. On évoque des grandes figures qui ont marqué l'histoire de l'abbaye. On évoque aussi la figure de Félix Léon Hédoux, inventeur de l'ascenseur, qui a acheté le logis abbatial, qui est aujourd'hui le restaurant Serrasus, et qui a construit cette tour un peu étrange pour y mettre son ascenseur. Et puis enfin, on révèle une partie que l'on ne pouvait pas voir, donc à un niveau inférieur par rapport au sol, les vestiges de la salle capitulaire, la salle du chapitre, c'est-à-dire là où se réunissaient les moines au Moyen-Âge, qui datait du XIIIe siècle. Et donc on la redonne à voir, ainsi qu'un ensemble de chapiteaux, donc d'éléments de sculpture qui n'étaient pas montrés, qui ont été nettoyés et qui sont probablement également datés de l'an 1000, parce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques que dans l'abbatiale.
Exactement. Donc si on s'approche un peu dans cette pièce, on s'aperçoit donc au milieu une ouverture en fait, hein, qui nous donne justement sur les restes peut-être pas, sur les vestiges, en tout cas, de la salle capitulaire. La découverte de cette salle s'est faite comment ?
Eh bien, elle s'est faite en 1978, comme on l'explique là sur un panneau, au moment où on a décidé d'installer le chauffage central dans le bâtiment, qui avait été la gendarmerie de Saint-Savin depuis 1798, je crois, jusqu'en 1971, donc une longue période. Et on voit une photo d'ailleurs de l'état du réfectoire à ce moment-là. Et donc, en installant le chauffage central, on a découvert une colonne, je crois, et finalement des fouilles ont eu lieu et ont révélé cette partie qui n'était plus visible, qui a été donc... qui restait longtemps sous le plancher et qui m'a semblé vraiment intéressant de redonner à voir au public pour avoir aussi cette notion de qu'on avait à l'époque médiévale jusqu'au XVIe siècle tout un ensemble de bâtiments. Alors on ne sait pas à quoi exactement ça ressemblait parce qu'il n'y a pas d'archives, mais les abbayes bénédictines, puisqu'on est dans une abbaye de l'ordre bénédictin, sont toutes construites sur le même principe. Donc on avait dans la partie sud et ouest de l'abbaye, donc les bâtiments conventuels, un cloître, peut-être une bibliothèque, allez savoir, un dortoir forcément, donc c'est une manière aussi de rappeler cela.
Tout est resté en l'état parce que je vois au sol justement une plaque sculptée avec une sorte de colonne, c'est d'origine ?
Alors c'était dans le réfectoire, effectivement, c'est une pierre tombale avec une croix gravée, donc et on a même le nom de la personne, hein, puisque c'est un certain Emery de Serragil, donc jadis de Taillebourg, que son âme repose en paix. Voilà.
Et si on avance donc dans ce réfectoire des moines, on voit donc cette maquette hein, de Léon Hédoux, je suppose, hein, d'une construction.
Voilà. Voilà, donc ça c'était une maquette qui avait été réalisée pour l'exposition qui a eu lieu dans cet espace, qui va rester comme ça, puisque l'année dernière, on avait une exposition temporaire, mais qui était très intéressante sur les expositions universelles liées à la figure de Félix Léon Hédoux, parce que c'est à cette occasion qu'il a pu présenter son invention, et notamment il a équipé la Tour Eiffel avec son ascenseur. Mais c'est vrai que ça ne permettait pas de voir et d'apprécier les qualités architecturales de cette salle qui était un peu particulière parce qu'elle est construite à la fin du XVIIe siècle. Je crois qu'on a même la date quelque part inscrite, 1698 je crois, pour ne pas dire de bêtises. Et donc le système de voûte est assez particulier parce qu'on est alors à l'époque classique, on a oublié le Moyen-Âge. Mais l'architecte qui s'appelle le Duc de Toscane, va faire des voûtes qui sont quand même encore un système de voûtes médiévales. Donc à une époque où théoriquement on ne fait plus ce genre de choses, donc c'est aussi la permanence de certains modèles médiévaux à la fin du XVIIe siècle. Pour revenir à la maquette, donc il s'agit d'une maquette du premier monde-charge de Félix Léon Hédoux, qui a donc effectivement cet ingénieur natif de Saint-Savin qui a monté une entreprise de travaux publics et qui a créé notamment cet ascenseur, sachant qu'au départ l'ascenseur c'était plutôt fait pour transporter des charges lourdes dans le cadre de la révolution industrielle, et ensuite ça a été adapté aux personnes.
Exactement, ascenseur qui a servi notamment à la Tour Eiffel, dans les premiers ascenseurs construits par Léon Hédoux.
Oui, il a effectivement équipé, je crois, une partie de la Tour Eiffel pour l'exposition de 1889, où la Tour Eiffel a été présentée.
Voilà, une salle magnifique. Alors moi, je vous propose de continuer la visite, hein, tranquillement, et puis de voir l'ensemble de l'abbaye. C'est quoi, c'est...
Alors ça, c'est... un ouvrage qui a été édité par Prosper Mérimée, de tous les relevés en dessin de toutes les peintures.
Ah oui, c'est magnifique.
Donc c'est un livre de 1850 et quelques, je crois.
D'accord.
Voilà, c'est la première monographie sur Saint-Savin. Et il y a notamment des dessins aussi de Viollet-le-Duc. Enfin...
Donc là, nous sommes au-dessus du réfectoire des moines, ou pas très loin. Nous sommes montés par un ascenseur avec CPMR oblige. C'est un long couloir, je veux dire. Qu'a-t-il comme intérêt ?
Alors ici, nous sommes donc dans ce qui était le dortoir, en quelque sorte. Alors, à la différence du Moyen-Âge, où on avait des grandes salles non séparées, avec des couchages non séparés, sans doute, ici, on a donc des cellules de moines. Beaucoup plus confortable sans doute, avec même des cheminées, donc de la reconstruction de la fin du XVIIe siècle. On voit que finalement c'était une petite communauté, parce qu'on a même pas une quinzaine de cellules, et qu'il y avait probablement un moine par cellule, donc à l'époque on a là une petite communauté de moines. Donc aujourd'hui, donc, effectivement c'est desservi par une grande galerie, une très belle galerie qui donne à l'ouest, sur les cellules, certaines cellules uniques, d'autres doubles. Et aujourd'hui, donc, on peut y découvrir un parcours scénographié, ce qu'on appelle un parcours scénographié, dans ce centre d'interprétation qui a maintenant 25 ans, et qui donne un certain nombre d'informations sur l'histoire de l'abbaye, sur la vie monastique, sur le Moyen-Âge en général, et les peintures. Aujourd'hui, il nous semble que ce parcours est un peu daté, qui ne satisfait plus complètement ce qu'attend le public. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, le public a besoin de propositions qui se renouvellent. Donc le choix qui a été fait, qui a été validé, et c'est à partir de l'année prochaine, l'idée étant que chaque année, on ait quelque chose de nouveau à proposer et à voir à l'abbaye. Donc cette année, c'est le réfectoire, plus des nouveaux types de visites. Et l'année prochaine, donc, on va réaménager ces espaces, on va les recycler en quelque sorte, pour en faire un espace d'exposition temporaire, qui sont quand même assez longues pour laisser le temps de bien en profiter, donc qui dureront environ 2 ans, et qui viendront revisiter, expliciter les grandes images du cycle de peinture qui se trouvent dans l'abbatiale. Tout le projet que j'essaye de mettre en place avec l'équipe, c'est de dire que l'essentiel quand même à Saint-Savin, ce sont ces peintures extraordinaires. Et donc il faut tout faire pour mieux les donner à voir et montrer aussi qu'elles sont contemporaines. Donc l'exposition, elle se déclinera de cellule en cellule avec des thématiques différentes. Il y aura une première partie consacrée à l'explication de la création de ces peintures. Alors le thème qui sera retenu pour l'an prochain, c'était assez naturellement l'image la plus connue qui est l'Arche de Noé. Donc ce sera une exposition à partir de l'Arche de Noé de Saint-Savin sur la question du déluge et de l'Arche, qui est un récit très ancien, hein, qui arrive dans la Bible, mais qui existait préalablement, et qu'on retrouve partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire que cette question de la submersion des flots, vous le trouvez dans toutes les civilisations, aussi bien en Europe, mais en Inde, en Chine, en Australie, chez les aborigènes, en Amérique du Nord, chez les Amérindiens, chez les Scandinaves, etc. Donc on va montrer cette universalité du récit, parce que l'intérêt de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est que ces peintures, elles ont été créées dans un contexte bien précis, elles témoignent d'une civilisation, la civilisation médiévale, mais en même temps, elles nous parlent également aujourd'hui. Parce que quand vous parlez de déluge et de montée des eaux, bien, il y a un an, on a bien connu, avec l'inondation extraordinaire de la montée de la Gartempe à 6 mètres, avec la crypte inondée, et une partie de la commune de Saint-Savin et beaucoup de communes des environs inondées. Donc ces problèmes de montée des eaux, elles sont de plus en plus fréquentes. Et puis l'Arche de Noé, ce sont les animaux, c'est la préservation des animaux, c'est la biodiversité. Donc on va montrer à la fois la dimension patrimonial, historique, expliquer bien le contexte de réalisation, et en même temps on va montrer en quoi ça nous parle aujourd'hui. Donc ce sera un joyeux mélange d'objets, d'œuvres d'art, d'explications autour de ces thématiques, avec notamment des partenaires prestigieux comme par exemple la maison Hermès qui va participer à cette exposition, maison de luxe Hermès qui va nous prêter des animaux un peu étranges qu'ils utilisent, qui montrent notamment dans leur vitrine. Et puis des partenaires locaux aussi, la ville de Montmorillon qui va nous prêter des planches rossignol, hein, ces planches qui représentent, qu'on avait le plaisir de voir quand on était à l'école il y a quelques années, le musée de Bru qui va aussi nous prêter des boîtes à papillons et à insectes. Voilà. Et puis des artistes d'aujourd'hui, des images du temps passé. Donc tout un réaménagement. Avec cette exposition qui permettra de comprendre cette image très très impressionnante, qui d'ailleurs est un drakkar viking, hein, donc il y aura aussi une cellule consacrée justement à cette représentation du bateau qui prend des formes très différentes, hein, selon les cas, ça peut être un bateau, d'autres fois c'est une boîte, donc on expliquera un peu tout ça, et puis on racontera aussi comment ça continue à faire rêver, voire même délirer parfois, parce que si vous allez sur internet et que vous tapez Arche de Noé ou déluge, vous trouvez tout un tas de théories plus ou moins sérieuses sur la dimension historique du déluge, on dit que l'Arche serait posée sur une montagne en Arménie, le mont Ararat, etc. Donc ça fait beaucoup beaucoup encore rêver.
C'est vrai qu'il y a énormément de recherches d'ailleurs de ce côté-là, hein, régulièrement. On va avancer tranquillement dans la galerie et puis passer devant une cellule justement de moines. Alors c'est vrai que ce sont des cellules entre guillemets assez petites. Ça fait quoi? Ça fait une cellule, oui, qui doit faire une vingtaine de mètres carrés, alors qui est aménagée, on va dire, avec un panneau qui...
C'était à l'époque un très bel aménagement, hein, de très très grande qualité. Mais on y trouve beaucoup beaucoup de textes. C'est vrai que même les éclairages, etc., maintenant sont datés. Il faut revoir tout ça. On a des néons. Donc l'idée est de ne pas du tout supprimer ce qui existe, mais de le recouvrir et de l'utiliser autrement.
D'accord, et de le préserver en même temps, en le recouvrant. Voilà.
Tous les bancs vont disparaître, ouais. Et pour pouvoir avoir justement une belle perspective, et on aura dans cette galerie justement une espèce de défilé d'animaux étranges qui, dans le cadre de l'exposition. Et je pense qu'effectivement, c'est le temps est venu de proposer autre chose, et surtout avec le principe d'exposition temporaire. Bon, l'année prochaine, on parlera de l'Arche de Noé, mais les projets à venir, c'est ensuite d'aller explorer cette extraordinaire représentation de la Tour de Babel, qui à Saint-Savin représente en fait un chantier de construction au Moyen-Âge, mais qui est aussi un sujet universel. On pourrait parler de Babel à Dubaï, hein, en quelque sorte. On pourrait également parler tout à fait de la fuite en Égypte, donc le passage, la fuite en Égypte avec la notion de migration, l'Apocalypse qu'on a dans le porche avec quelques très, très belles images de ce texte fantastique, extraordinaire de l'Apocalypse, le dernier de la Bible et de l'Évangile. Et bien, vous avez actuellement une très belle exposition à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, qui montre aussi tout l'intérêt de ce type de représentation qui continue d'être exploité par les artistes, par l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Je rappelle que nous sommes là donc, dans la galerie qui menait au dortoir des moines. Nous avons visité le réfectoire des moines tout à l'heure. D'autres aménagements très certainement. Alors, des aménagements qui ne sont visibles, je le rappelle, hein, qu'en passant par la billetterie, vous pouvez toujours rentrer dans l'église paroissiale et admirer les fresques, mais sans explication, elles perdent énormément d'intérêt, comme vous pouvez le voir lorsque Jean-Luc Dorchy en parle avec passion. Eh bien, écoutez, je vous propose de nous retrouver après une pause musicale ici en compagnie de Jean-Luc Dorchy, donc dans l'abbaye de Saint-Savin, ce joyau de l'art roman.
C'est une histoire qui a beau lieu, Marie la Belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Il est venu le
sommes toujours donc sur REC 103.7 et les chemins de travers. On est là devant une perspective qui représente l'abbaye, je suppose, à l'époque.
Ça, c'est donc le projet initial de la reconstruction du XVIIe siècle par l'architecte Le Duc di Toscane, par donc la commandité par la communauté de Saint-Maur, donc une communauté de moines bénédictins, des grands constructeurs au XVIIe siècle. C'est ce qu'on devrait avoir s'il y avait eu assez d'argent pour le réaliser. Donc on a effectivement la partie dans laquelle on est, le bâtiment conventuel du XVIIe siècle. On voit sur la gauche le logis de l'abbé, où actuellement le restaurant Serrasus et l'église. Mais on voit également au milieu un cloître, on voit un bâtiment intitulé bibliothèque. On a un mur d'enceinte qui enferme complètement l'abbaye, on a des jardins. Malheureusement, si l'argent était très... Si on avait beaucoup d'argent dans le Poitou au XIe siècle, puisque rappelons que le Poitou était une des provinces les plus riches et les plus puissantes du Royaume de France à cette époque, plus puissant même et bien plus étendu que les domaines du roi de France au XIe siècle, et donc duchesse d'Aquitaine, comtesse de Poitou, au Maud, a pu léguer une somme d'argent considérable pour construire l'église, et bien au XVIIe siècle, l'argent n'est plus dans le Poitou, il est à Paris, et il va être à Versailles, donc les intérêts sont ailleurs, et donc on n'aura que finalement la construction du bâtiment dans lequel on est, et du logis de l'abbé, et pas du tout cet ensemble qui était beaucoup plus ambitieux.
Voilà, un ensemble qui aurait couvert au moins la totalité de la place.
Oui, tout à fait, puisque en fait, le Saint-Savin se partitionnait dans le passé entre la partie où se trouve l'abbaye et l'autre côté de la route de Châteauroux, là, qui relie Poitiers à Châteauroux, qui était d'ailleurs une route très importante qui reliait Poitiers à Bourges, donc un axe majeur au Moyen-Âge et après. Et donc le village étant plutôt de l'autre côté de la route. Et il y avait donc une église paroissiale qui se trouvait au niveau de la place de la République actuellement. Et je crois qu'il y avait une autre église, il y avait également un château. Et donc c'était ici la partie de l'abbaye, effectivement. Mais bon, voilà, le projet n'est pas allé jusqu'au bout.
Nous sommes toujours donc sur REC 103.7 et les chemins de travers, et nous sommes là, Jean-Luc Dorchy, au niveau de l'auditorium, je crois.
Oui, voilà, donc sous les combles du bâtiment conventuel. Donc nous avons cet auditorium où nous diffusons un film au public, mais qui est également un lieu très approprié pour accueillir des réunions, des séminaires. Et donc nous développons une offre de tourisme d'entreprise qui se met petit à petit en place, avec la possibilité donc de venir faire une séance de travail ici et ensuite éventuellement aller en bas au réfectoire pour un cocktail dînatoire ou aller manger au Serrasus.
Voilà, avec une charpente, oui, qui est en forme de coque de bateau renversée.
Tout à fait, dans le style aussi, oui, de la construction du XVIIe, oui, bien sûr. C'est assez typique de l'époque, bon, qui a été réaménagé. Voilà, il y a une très belle vue sur la Gartempe. Oui, quand on est côté est, et sur la promenade de Rochambeau, et donc ce très beau site qui est aussi Saint-Savin.
Un auditorium donc, qui est aussi destiné aux entreprises qui voudraient peut-être participer à l'effort de reconstruction, enfin d'aménagement du site.
Bah, en tout cas, nous on a une proposition des propositions de location de ces espaces, donc on peut louer l'auditorium pour qui est tout à fait équipé pour des réunions, des séminaires, etc. Et on essaye de coupler ça avec la possibilité de profiter maintenant du réfectoire qui est accessible, qui peut être un lieu de convivialité, où on peut avoir un cocktail, par exemple. On peut aussi nous proposer des offres de visites spécifiques, hein, pour les entreprises, un escape game, une visite théâtralisée, etc., à leur demande. Et on commence à travailler en accord avec le restaurant Serrasus aussi, pour pouvoir justement accueillir ce type de... Enfin, faire ce type de proposition.
Ah oui, on a un escalier. Voilà, là, on est redescendu un peu au niveau de cet escalier monumental en pierre, lui aussi d'origine, je suppose.
Alors, très bel escalier de la reconstruction du XVIIe siècle, hein, donc par le duc, et avec notamment des colonnes qui sont un peu en descendant. qui sont des colonnes toscanes, et c'est pour ça qu'on a appelé cet architecte, qu'on le surnommait Toscan, le duc dit Toscane, parce que il aimait beaucoup ce type de décor.
Voilà, et une mosaïque qui ressemble à qui est.
Alors, ça c'était un travail pédagogique avec les enfants. C'est l'occasion de dire aussi que l'abbaye a toute une proposition, toute une offre au palais des scolaires, à tous les niveaux, depuis la maternelle jusque le lycée. Et donc nous accueillons des groupes scolaires, nous proposons des ateliers, notamment des ateliers à la fresque, donc à la compréhension de cette technique de fresque, bon, sachant que on parle des fresques de Saint-Savin, donc la fresque c'est une technique de peinture bien particulière à fresco dans le frais, et qu'en réalité une grande partie des peintures, notamment de la voûte, ne sont pas des fresques mais des peintures murales réalisées autrement. En tout cas, on propose aux jeunes qui viennent ici, aux scolaires, de découvrir cette technique de la fresque. On a des ateliers sur la calligraphie, sur le Moyen-Âge, etc. On développe toute une offre auprès du public scolaire.
Ce qui permet de rappeler justement qu'on est aussi au pied de la vallée des fresques, avec cet établissement, ces chapelles, ces églises qui vont de Saint-Savin jusqu'à Latu, je crois.
Jusqu'à Saugé. Donc effectivement, la vallée des fresques regroupe 7 églises et chapelles qui ont toute la particularité, à l'exception peut-être de l'octogone, d'avoir des peintures murales vraiment très intéressantes, singulières et sur leurs murs, donc des petites églises de campagne qui font un parcours en remontant la Gartan, donc Saint-Germain, ici en face de Saint-Savin, Antigny, ensuite la petite chapelle funéraire de Jouet, ensuite on remonte à Montmorillon, actuellement fermé pour travaux, mais on espère qu'on pourra les revoir. Donc la crypte Sainte-Catherine dans l'église Notre-Dame, la chapelle Saint-Laurent et l'octogone, et enfin l'église de Saugé. Et donc effectivement, le PCC, enfin l'abbaye, a pour mission aussi de développer ces églises, de les faire connaître, de développer ce parcours, parce que ça nous permet de mettre en avant quelque chose de très important, qui est que on parle beaucoup de surtourisme, de gens qui se retrouvent dans même de certains sites, de certaines petites villes, qui en arrivent à faire à être obligés de limiter leur accès, parce qu'ils sont trop visités. Donc ici, on a la possibilité de voir quelque chose d'exceptionnel, d'unique, si on aime le patrimoine, si on aime la peinture, si on aime... Mais en même temps, on a une offre nature aussi très très riche, avec des sentiers de randonnée absolument extraordinaires un peu partout. On développe aussi des partenariats avec les fédérations de cyclistes, de cyclotourisme. On peut descendre en canoë. Notre objectif là, c'est de faire prendre conscience qu'on peut faire converger l'amour de la culture et du patrimoine et l'amour de la nature, au travers d'activités qu'on va proposer, à la fois de découverte de ces églises, de leur peinture, mais aussi du paysage, qui est assez exceptionnel dans cette partie est de la Vienne.
Exactement, avec une offre donc, qui est assez, assez large, qui pourrait peut-être se développer d'ailleurs, puisqu'on est, on le disait, au cœur du triangle d'or historique, avec des offres qui pourraient peut-être de billetterie, qui pourraient peut-être allier en même temps le roc aux sorciers et puis la cité médiévale.
Oui, c'est vrai qu'il y a un lien assez naturel, donc il y a actuellement... une réflexion sur qui devient concrète avec des ateliers et un comité technique, des réflexions qui conduisent à créer cette synergie entre Chauvigny, qui est quand même une entrée importante d'un point de vue touristique, et Angles et Saint-Savin. Donc on y retrouve beaucoup de points communs, le Moyen-Âge, à Chauvigny bien sûr, dans la cité médiévale, à Angles avec le château, mais aussi le fait de représenter sur des murs, puisque finalement le roc aux sorciers c'est une représentation très ancienne, d'époque préhistorique, mais c'est une représentation sur les murs, donc qui témoigne de cet intérêt des hommes, des humains, de représenter le monde sur des murs, et qu'on retrouve ici également à Saint-Savin. Donc voilà, ce travail est mené très concrètement, et on a reçu d'ailleurs lundi dernier un groupe très important au travers grâce à l'office de tourisme de Grand Châtellerault, d'hébergeurs plutôt du nord de la Vienne, du Châtellerault, Donc voilà, il faut de toute façon se mettre ensemble et dire tous ensemble l'intérêt de nos territoires et avoir une vision plus large pour pouvoir offrir aux gens qui viendront un choix très large de propositions.
Exactement. Eh bien, écoutez, je vous propose de nous retrouver après une pause musicale, ici en compagnie de Jean-Luc Dorchy, donc dans l'abbaye de Saint-Savin, ce joyau de l'art roman.
Un jour, une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 La dame dit, voulez fort garder la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore, et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Toujours donc sur REC 103.7 et les chemins de travers. Nous sommes ici dans la boutique. Au niveau des produits donc, qui sont présentés, beaucoup de produits, je suppose que c'est un peu comme partout, hein, des produits internationaux, des produits locaux qui sont présentés de la Vienne, des différents secteurs de la Vienne.
Oui, alors ce seront plutôt des produits de bouche, puisqu'on va avoir le vin du Haut-Poitou, on va avoir le broyé du Poitou, spécialité locale aussi. On avait du miel, mais on n'en a plus. On a de la bière, qui est une production locale aussi, dont le brassin est spécifiquement fait pour l'abbaye de Saint-Savin. Donc oui, pas mal de choses locales.
Oui, c'est ça. Puis avec le développement du Triangle d'Or, on peut supposer que justement au niveau de l'artisanat local, ça puisse se développer encore, puisque on va ne pas vous faciliter le travail, pardon, en créant une nouvelle type de visite avec des gens qui vont visiter à la fois Chauvigny, Angle-sur-Anglin et Saint-Savin, a priori.
Alors au contraire, puisque ça reste finalement complémentaire, nous on propose des choses qui vont compléter la découverte soit de Chauvigny, soit d'Angle, et les gens peuvent s'y retrouver et mieux découvrir le territoire de cette façon-là.
Voilà, donc la visite va se terminer du côté des jardins. Nous sommes à l'extérieur, côté Gartempe, avec un site particulier qui a été inondé, d'ailleurs, on le disait l'année dernière. Un site historique hein, aussi.
Bah, ça fait, effectivement, c'est le jardin... fait partie de l'abbaye, c'est le jardin de la reconstruction du XVIIe siècle. Alors aujourd'hui, on va dans un premier temps, dès cet été, le valoriser, faire un certain nombre de plantations de fleurs, et puis à plus long terme, va s'engager l'année prochaine une réflexion sur la création d'un nouveau jardin, à la fois un jardin qui évoquerait peut-être le jardin médiéval, mais aussi le jardin de l'époque classique au XVIIe siècle, et puis qui soit aussi un jardin peut-être artistique, et vraiment créer un lieu à part entière qui soit un plus fort dans la visite. Mais déjà, dès cette année, on a prévu de vraiment bien nettoyer le jardin, de le fleurir, et de faire en sorte que les gens puissent venir aussi s'y reposer et passer un moment agréable à la belle saison.
Écoutez, Jean-Luc, merci. Jean-Luc Dorchy, je rappelle que vous êtes directeur de l'EPCC, l'établissement qui gère donc l'abbaye de Saint-Savin, mais pas que, puisqu'on parle aussi de la vallée des fresques, que l'abbaye de Saint-Savin se situe au cœur du triangle d'or historique de la Vienne, entre Chauvigny, Anglesey-Anglin, Saint-Savin, bien évidemment, qu'il y a énormément de choses à voir sur le secteur, beaucoup de choses à voir et à découvrir pour les habitants de la Vienne, mais pas que, hein, pour l'ensemble, beaucoup d'étrangers qui viennent sur Saint-Savin.
Oui, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais on a quand même, alors principalement plutôt des anglo-saxons, des britanniques, on a des hollandais. D'ailleurs, le camping de Saint-Savin vient juste d'être repris par un couple de hollandais, des allemands, et puis après, on a un peu toutes les nationalités, alors pas forcément dans des proportions très importantes, mais on a des gens qui viennent de Thaïlande, etc. Enfin, on voit bien, notamment quand on regarde les stats en statistiques en détail. Voilà, je pense que ce qu'on doit vraiment dire pour conclure et pour qu'on ait aussi, parce que c'est ce qui parle et c'est ce qu'on met vraiment en avant, que Saint-Savin, bah, c'est le site UNESCO de la Vienne. Et donc parmi les 15 sites UNESCO de la Nouvelle-Aquitaine, et c'est un des tout premiers d'ailleurs dans la région, puisque je crois que c'est le 12e à être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Donc voilà, Saint-Savin, le site UNESCO de la Vienne, ce qui doit attirer notamment à la fois les gens de la Vienne, redécouvrir que les gens de la Vienne redécouvrent et s'approprient ce joyau, mais effectivement notre objectif c'est de faire venir de partout.
Exactement, donc si Prosper Mérimée appelait cet endroit la chapelle Sixtine de l'art roman, c'est bien parce qu'il y a une raison. Hein. Jean-Luc Dorchy, merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite d'un autre lieu de la Vienne. À bientôt, au revoir.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève cette émission au cœur du triangle d'or historique, au pied de l'abbaye de Saint-Savin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Isabelle Soulard de nous avoir permis d'entrer en contact avec l'EPCC, avec le Jean-Luc Dorchy, directeur de l'EPCC, l'organisme qui est en charge de l'organisation et du bon déroulement des visites au sein de l'abbaye de Saint-Savin, mais pas que, puisqu'il s'occupe aussi, gère aussi l'abbaye des fresques. Merci donc à Isabelle Soulard, qui fait un travail exceptionnel, je peux vous le dire, on en parlera d'ici quelques semaines, sur le triangle d'or historique de la Vienne, en compagnie notamment d'Alain Pichon, président du département de la Vienne. Merci à vous donc pour avoir suivi cette émission. Je vous conseille tiens, de continuer l'aventure, d'aller participer à l'ensemble des activités hein, qui naissent, qui existent, qui vont être mises en place tout l'été au sein du triangle d'or historique de la Vienne, qu'il s'agisse donc de Saint-Savin ici, avec les randonnées bien évidemment, avec les visites, hein, la visite de l'abbaye, les visites accompagné là aussi pour la vallée des fresques, les visites aussi du point du jour, la fabrique du point du jour qui se trouve à Saint-Savin, une petite fabrique de jardin, une ancienne fabrique de jardin, dirons-nous, mais qui a un charme très particulier. Les propriétaires vous accueillent sans problème, vous vous adressez à l'entrée de l'abbaye, on vous donnera les coordonnées ou alors tout simplement vous regardez sur internet fabrique du point du jour Saint-Savin et vous aurez tous les éléments. Voilà pour cette visite, on continuera, on essaiera d'en faire une prochaine encore. Peut-être, tiens, du côté de l'appui, je vous parle du triangle d'or historique de la Vienne depuis tout à l'heure en vous parlant de Saint-Savin, Chauvigny, Anglesey-Anglin, mais il y a aussi des villages au milieu de tout cela. Ces villages, c'est par exemple Saint-Pierre-de-Maillé, avec ses berges de la Gartempe, ses petits châteaux et puis ses grottes. C'est aussi la Bussière. Alors on va reparler dans un instant de la Bussière parce que c'est un village très particulier qui a reçu un hôte très très particulier, qui a aujourd'hui une base de loisirs, qui a aussi un centre de vacances qui peut vous accueillir sans problème. Vous tapez la Bussière 86 200. 360, me semble-t-il, sur la Vienne. Vous verrez énormément de choses aussi à faire là-bas, du côté de la Bussière. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc l'appui. L'appui est son ancien prieuré Fontevrise du XIIe siècle, avec ses aménagements historiques, ses aménagements hydrauliques, ses bâtiments aussi, hein, aujourd'hui propriété de la Congrégation des Filles de la Croix. Une congrégation qui compte encore 300 sœurs réparties dans le monde entier, dont les deux fondateurs, André Hubert Fournier et Jeanne-Élisabeth Bichet des Âges, ont été canonisés l'un et l'autre. Une congrégation donc présente à l'appui depuis 1820, me semble-t-il, qui avant cela a remplacé donc les Fontevristes, les moines émoniales Fontevristes, qui étaient venus s'installer ici dès le début du XIIe siècle, hein, qui sont restés dans 700 ans, 200 ans ensuite de présence des sœurs, ce qui fait que nous avons au sein du triangle d'or historique, ce qui est déjà pas mal, et puis surtout au sein de l'appui, 900 ans de présence religieuse quasiment sans discontinuer. Voilà pour le programme, on essaiera d'y aller d'ici quelques semaines, je vous l'ai dit, hein, pour visiter un peu cet endroit qui est magnifique. J'ai l'habitude de faire les journées du patrimoine tous les ans en ce lieu, et à chaque fois je dis la même chose aux gens: vous allez rentrer ici, vous allez vous rendre compte que vous êtes au cœur de l'un des plus beaux monuments de la Vienne. Alors les gens sourient généralement dès le départ, et puis en sortant, on fait un petit clin d'œil en me disant bravo, vous aviez raison, on n'en est pas loin. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine, mais on se quitte en chanson, avec une chanson, je vous l'ai dit, d'un autre très particulier qui a vécu à la Bussière, dont le souvenir s'efface malheureusement peu à peu, qui a aujourd'hui, on va dire, juste un petit buste, un modeste buste, sur la place du village. C'est déjà pas mal, me direz-vous, puisque beaucoup de communes françaises, ou en tout cas de villes françaises, auraient pu lui donner leur nom. Là, ici, il a au moins une place, là, la place, me semble-t-il, Gilbert Bécaud, et puis ce petit buste Gilbert Bécaud. La famille vit toujours sur place, hein, Kitty, son épouse, et puis certainement ses filles, une ou deux de ses filles, et puis surtout ses petits-enfants. Voilà, tout ce monde, donc, là-bas, on va se quitter en chanson avec un petit oiseau de toutes les couleurs, hein, qui va nous accompagner au cœur du triangle d'or historique, et on se retrouve à la semaine prochaine.
Ce matin, je sors de chez moi, il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir, mon Dieu qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis, va pas si vite, dis, attends-moi comme t'es pressé, dis, t'as rendez-vous, dis, là où tu vas, dis, je vais avec toi. On passe devant chez Lucho, qui me fait hé, hey, qui me fait oh. Je ne me suis pas arrêté, portons-le, ami, moi je cours. Un petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu. Ah, j'ai cru que je l'avais perdu, mais je l'ai entendu siffler, et c'était lui qui me cherchait. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Oh, tu m'emmènes, oh, tu m'entraînes, dis, va pas si vite, dis, attends-moi comme t'es pressé, dis, t'as rendez-vous, dis, là où tu vas, dis, je vais avec toi. On est arrivé sur le port, il chantait de plus en plus fort, s'est arrêté, m'a regardé, au bout de la mer, s'est envolé. Je peux pas voler, je peux pas nager, je suis prisonnier, tu m'en veux pas. Et bon voyage, le petit oiseau de toutes les couleurs.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.